fica registro dos disparates que eu digo.
Está gravado.
Ok. Muito bem. Alors, comme vous avez dit, je vais parler en portugais, pas pour... bon, pour vous respecter en fond, parce que je crois que j'ai fini mon vocabulaire et tout ça dans le déjeuner, alors le portugais sera plus facile pour moi, et je suis sûr que le français que vous allez écouter, c'est beaucoup mieux que le mien. Então, bem-vindos de volta. Já voltaremos ao francês na parte das perguntas e respostas mais distendidos. Pediram-me, quando definirmos o programa, para vos falar do impacto da tecnologia na fortificação da democracia e na participação dos cidadãos. E para isso preciso-vos falar da criação do Gabinete de Comunicação, que é o serviço, a unidade orgânica mais recente da Assembleia da República. Tem, na realidade, 4 anos de funcionamento. E este gabinete, o Gabinete de Comunicação, é uma consequência do trabalho de um grupo criado em 2016. Ok. O grupo de trabalho para o Parlamento Digital. Foi criado pelo anterior presidente com o objetivo de modernizar a Assembleia da República e de criar plataformas digitais de acesso entre a sociedade e o Parlamento. Tinha como linhas mestras de trabalho estes objetivos que aqui estão, e portanto a renovação do site, criação de plataformas, desmaterialização, redes sociais, dados abertos e o canal Parlamento. Desse trabalho decorreram 2 atos jurídicos, que são estas 2 resoluções, que definem as competências do Gabinete de Comunicação e as regras de difusão do canal Parlamento, das redes sociais e do site do canal Parlamento. E, portanto, criou-se também assim um Gabinete de Comunicação com 3 áreas de atuação diferentes. O canal Parlamento, por um lado, o Parlamento dos Jovens, que é uma iniciativa já com 27 anos, que traz jovens em idade escolar para o Parlamento e leva o Parlamento às escolas. E uma unidade completamente nova, essa sim, que é a da criação de conteúdos. Não significa isto que não houvesse já comunicação na Assembleia da República. Não estava ainda agregada numa só unidade orgânica, estava dividida. Com a criação desta unidade orgânica e a responsabilidade que nos foi dada de administração do site, criámos, enfim, uma unidade para não apenas carregar a primeira página do site, mas também monitorizar esse site e modernizá-lo. E mostrava-vos apenas a evolução do nosso site, que começou em 96, portanto, no início da internet. E começou desde logo com algumas, como veem, com uma versão francesa e com uma versão inglesa, mas fomos mudando e modernizando, obviamente, a nossa página de entrada, seguindo aquilo que são as boas práticas internacionais. Este é de 2002, este de 2008, e era o que tínhamos em funcionamento até à criação do Gabinete de Comunicação. E, finalmente, em 2018, criámos esta webpage com estas mais-valias que vos descrevo ali de lado. Portanto, atualização de imagem, navegação entre páginas, sobretudo os dados abertos, muito importante. Essa era muito importante porque era uma questão de transparência e de permitir aos investigadores trabalharem a nossa informação. Por outro lado, ter também uma adaptação aos dispositivos móveis que não existia até então. O objetivo principal, porém, foi o da criação de plataformas eletrónicas que permitissem aos cidadãos entrar em contacto com a Assembleia e apresentar iniciativas à Assembleia da República. Já tínhamos também 1 ou 2 plataformas, mas eram tecnologicamente atrasadas e estávamos a ser ultrapassados por plataformas privadas de cidadãos nessa apresentação. E colocámos essas plataformas no centro do website e, portanto, o ponto principal do nosso site tem uma página chamada Cidadania e Participação e que permite enviar sugestões, mensagens, petições, iniciativas legislativas. E com isso desmaterializámos a parte do papel e tentámos trazer os cidadãos mais perto dos deputados. Mostro-vos em seguida um gráfico que tem uma evolução da apresentação das petições, do modo de apresentação de petições, sendo azul aquilo que já decorre do novo portal e a verde o que era anterior ao novo portal. E o que podem ver, sobretudo, é que diminuímos a recepção de mensagens por e-mail, porque era o meio principal de recepção das petições, e passámos, obviamente, a receber um grande número de petições através da plataforma eletrónica. Esta plataforma tem uma grande vantagem sobre a sua antecessora, que é de permitir-me a mim, cidadão, apresentar uma petição e deixá-la ali a recolher assinaturas até que ela tenha assinaturas suficientes para atingir uma determinada consequência. Porque, enfim, eu como cidadão posso apresentar a minha petição e ela pode ser debatida, mas se ela tiver 1000 assinaturas tem que ser debatida em comissão. E se tiver, agora são 7000 assinaturas, peço desculpa, é debatida em plenário. E, portanto, a plataforma tem que permitir essa agregação de assinaturas para permitir aos cidadãos verem as suas petições debatidas em plenário. Em relação às iniciativas legislativas de cidadãos, prerrogativa que consta da nossa lei desde 2003, podem ver também, na linha do meio, aquelas que já tinham sido apresentadas antes da criação da plataforma, e que são 5, e o número de iniciativas legislativas apresentadas por cidadãos com essa plataforma eletrónica mais do que duplicou. E, portanto, atingimos aí o nosso objetivo. Em relação a um espaço que é o espaço da Bolsa de Sugestões, é um espaço novo, decidido, criado pelos deputados, para permitir, e tem funcionado apenas como desabafo, se quiserem. Não há sugestões muito produtivas, mas permite aos cidadãos diariamente apresentarem sugestões, muitas vezes que não têm nada a ver com a Assembleia da República, mas no fundo tem um mecanismo de escape. No fundo, o nosso site continua a ser a porta de entrada principal para o Parlamento e para os cidadãos. Podem ver o número de acessos anual entre 2014, creio, desculpem, e de 2021, sendo que há um decréscimo de 2020 para 2021 por uma razão simples, que tivemos a legislatura interrompida a meio. Sim. E, portanto, o mês de outubro, que é o mês de apresentação do orçamento, onde mais de 1 milhão de pessoas vêm ao site, não aconteceu. Pronto. Compensaremos este ano com 2 orçamentos no mesmo ano. Pronto. O Gabinete de Comunicação, rapidamente, também tem funções de apoio à comunicação social, portanto, enfim, de acreditação, de resposta a perguntas, de definição de regras sempre que há necessidade de as definir, quando... mas também de produzir conteúdos específicos para os jornalistas, como seja uma newsletter semanal específica só para eles. Sim. Com os agendamentos da semana, com os trabalhos da semana, e também a criação de microsites com conteúdos específicos. O exemplo mais recente é um site específico para o acolhimento aos deputados no início da legislatura. E com isso condicionamos um bocadinho também a narrativa dos meios de comunicação social sobre aquilo que se passa na Assembleia. As plataformas ao dispor do Gabinete de Comunicação são estas, portanto, o portal de internet, o canal Parlamento, o Parlamento dos Jovens, a newsletter mensal e semanal e as redes sociais. Estas plataformas dão depois origem, porque o conteúdo é o mesmo, a estas contas de redes sociais, que eram até 2018 apenas 4, e que agora são estas 5, 7, 8, 9. Havendo ainda um plano para este ano criarmos uma conta no TikTok, mas para esse é preciso contar conteúdos especiais. enfim, o maior receio que tínhamos em relação à criação de perfis nas redes sociais era a interação com os cidadãos, porque não vale a pena criar conteúdo sem ter feedback. Felizmente temos tido uma boa experiência, porque apesar da equipa reduzida que temos, no Twitter, por exemplo, não temos muita interação. Disponibilizamos informação institucional, as pessoas apreendem essa informação, retweetam essa informação, mas não interagem connosco. No Facebook do Canal Parlamento, como vos disse, sim, muita interação, mas interação que não carece de resposta da nossa parte, carece de moderação, sim, e essa fazemos. Criámos, por outro lado, canais de contacto em que há perguntas, essas sim, institucionais, e vamos respondendo diariamente e rapidamente às perguntas. O perfil do LinkedIn é um perfil mais por razões profissionais de recrutamento, mas também de difusão da imagem da Assembleia. Dito isto, o número de seguidores das redes sociais, nestes 4 anos, mais do que quintuplicou em relação ao que tínhamos até 2018. E, portanto, enfim, estamos a fazer aquilo que era a nossa obrigação, porventura com alguns erros pelo caminho, mas é um caminho de aprendizagem que temos tentado seguir. Em relação ao canal Parlamento, de que me deram para falar também, enfim, já vos disse alguma coisa durante o almoço sobre a evolução histórica. Do ponto de vista mais recente, nós tínhamos até ao verão de 2021 estas 6 salas de comissão em que estamos aqui, com câmaras de emissão em direto, a sala das sessões, a sala do Senado, que já serviu como câmara alta quando tivemos 2 câmaras, e um auditório no edifício em que almoçamos. Todos estes tinham câmaras instaladas. Havia, como também vos disse, semanalmente queixas das comissões que queriam difusão em direto dos seus trabalhos sem que houvesse salas para conseguir fazer isso. E, portanto, de uma vez só, fizemos 2 coisas. Instalámos câmaras em mais 4 salas, digo bem, 4 salas. Renovámos as câmaras da sala das sessões, que passaram a ser HD e 4K, passámos a uma emissão toda em HD. E aumentámos também, como vos disse, a capacidade de os cidadãos assistirem a mais reuniões em simultâneo. E, portanto, criámos mais pontos de contacto com os cidadãos. Com este investimento, criámos um estúdio no Canal Parlamento e aumentámos também as capacidades de pós-produção dos vídeos, uma vez que o Gabinete de Comunicação passou a criar conteúdos que são depois também editados em vídeo e, portanto, fazemos dentro do Gabinete de Comunicação toda essa comunicação institucional de criar vídeos pequenos para as redes sociais. E, portanto, passámos a criar conteúdos para camadas mais jovens da população, tentando explicar algumas fases do funcionamento do Parlamento. Temos esta plataforma do Web TV de que vos falei, que começou em dezembro de 2015 e que representou o maior salto tecnológico dos últimos anos, e que tem estas mais-valias de que vos falei ao almoço e com as quais não vos vou amassar mais. Enfim, os conteúdos do Canal Parlamento são estes: reuniões plenárias, reuniões de comissão, sendo que as reuniões de comissão ocupam mais tempo de emissão do que as reuniões plenárias. Absolutamente. Audições públicas, seminários, congressos, lançamento de livros, atividade cultural da Assembleia da República também é transmitida. Fazemos reportagens e cada vez mais fazemos spots, pequenos vídeos de promo e trailers daquilo que é a atividade parlamentar. Dou-vos um exemplo. A Assembleia da República tem uma participação na Feira do Livro, anualmente, na Feira do Livro de Lisboa, e, portanto, fazemos um pequeno teaser para convidar as pessoas a visitar o pavilhão da Feira do Livro, da Assembleia da República na Feira do Livro. Este é um pequeno conteúdo estatístico daquilo que fizemos na última sessão legislativa da 14ª Legislatura. Portanto, plenário 341 horas, comissões 1042 horas, eventos foram menos horas. Tivemos uma grande participação na presidência portuguesa da União Europeia, que é o ARPPUE. E, portanto, tivemos um total de conteúdos gravados em menos de um ano, de 1.400 horas.
1.400 horas.
Como vos disse, sim, em menos de um ano. Portanto, sim, sim. Basicamente, isto foi o que fizemos entre setembro e janeiro de 2022. E basicamente era isto que tinha para vos explicar do Gabinete de Comunicação, até porque sei que é a última apresentação do dia e que estão cansados e não me querem ouvir mais. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous remercie énormément parce que j'aimerais bien parler français comme vous le faisiez. C'était ça. Je vous avais déjà parlé d'autant de choses pendant le déjeuner, mais je suis à votre disposition pour parler de ce que vous voulez.
Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de cette intervention, de votre intervention qui rassemble beaucoup d'éléments intéressants. Et la communication, toujours, c'est un domaine très intéressant parce que c'est le seul moyen qui véhicule les idées, soit des députés ou des intervenants à l'intérieur du Parlement. Effectivement, j'aimerais bien poser deux questions. La première concerne la chaîne parlementaire. Et ma question est la suivante. Est-ce que, lors de la programmation, des projets de loi en discussion au niveau des commissions, la chaîne peut prévoir des débats et avoir des intervenants externes qui ne sont pas sollicités ni par la commission, ni par le Parlement d'une manière générale, et ouvrir un débat à destination des citoyens? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne les droits de diffusion. Est-ce que la chaîne parlementaire, on a discuté lors du déjeuner, et vous m'avez dit qu'il y a un nombre d'heures à respecter durant l'année. Et est-ce que le nombre d'heures déjà à respecter durant l'année est couvert financièrement par un organisme ou par une institution de l'État, parce que les droits de diffusion, en réalité, c'est une entité indépendante qui héberge, bien sûr, des équipements et il y a un coût pour cette diffusion. Je vous remercie.
Question, mais j'essayerai le petit fond de mon français pour essayer de répondre à vos deux questions. En ce qui concerne les commissions, on transmet d'abord des auditions publiques, c'est-à-dire celles-là qui sont conséquences d'une invitation de la commission. Disons, la commission d'affaires constitutionnelles veut discuter une altération au code pénal. Et elle doit obligatoirement écouter le procureur général de la République, les associations représentatives des juifs, des juges et des procureurs publics. Alors, on transmet ça. On ne transmet pas les discussions entre les députés sur les altérations à ce projet-là de loi. Parce que
Pardon,
non, pas du tout.
Pas bien précisé ma question. Et est-ce que la chaîne peut provoquer, au moment des discussions en commission sur le projet de loi, des débats? Donc, c'est des tables rondes, donc avec où il y a l'invitation d'experts donc externes pour en débattre du sujet de l'heure. Ça, c'est en parallèle des discussions à l'intérieur de la commission. Ouais. C'est pour le citoyen. Est-ce que, pour que le citoyen ait une idée parfaite du projet? C'est non. Ça ma...
C'est pas habituel de faire ça. On transmet tout ça avec transparence, mais on ne construit pas plus que ça. Il y a autant de débats qui sont faits en conséquence de notre transmission, mais sans relation, sans connexion avec le Parlement. C'est-à-dire aussi qu'il y a des programmes humoristiques qui sont hebdomadaires et qui, tous les dimanches soirs, fait sa programmation avec notre programmation. Bon, mais c'est aussi un débat. Ce n'est pas un débat sérieux, ce n'est pas un débat intellectuel, mais c'est un débat. Et c'est ça qu'on fait. Mais on ne le fait pas volontairement, on n'invite pas des spécialistes pour commenter, pour faire d'autres débats. C'est-à-dire que cet organe de qui je vous ai parlé, le conseil de direction, est très fermé dans les contenus qu'on peut transmettre. Parce qu'il y a toujours une préoccupation d'équidistance dans la transmission. Disons que le Parti socialiste, qui est dans le moment le majoritaire, si on va faire quelque chose en concernant le Parti socialiste, on doit le donner plus de temps qu'aux sociodémocratiques et qu'aux communistes, à ce nouveau parti qui est AC, en portugais chegue. Alors, ils sont très préoccupés de ne pas faire cette distribution de temps et de s'assurer que la transmission est transparente, sans intervention d'aucune autre que les députés. Oui, Rosaline parle d'un programme qui s'appelle Parlement et que la télévision publique fait depuis 20 ans et qui fait avec un protocole avec nous. Mais le protocole, c'est seulement de les donner des installations et de transmettre ce programme-là dans la chaîne parlementaire parce que c'est un programme de débat avec des députés et un journaliste de la télévision publique. Alors, ils vont parce qu'ils veulent. La chaîne parlementaire transmet ce programme toutes les semaines, mais on n'a rien à voir avec le contenu du programme. La deuxième question, ça concernait, je m'excuse,
le droit de diffusion.
Alors, on paye, comme je vous avais dit au déjeuner, 600 000 euros à l'entreprise qui est chargée de la diffusion pour tout le pays. Et c'est un monopole.
Monopole.
Alors, ça, c'est une conséquence d'une loi qui est approuvée en 2012, parce que la télévision digitale est, disons, récente au Portugal. Je crois que la diffusion digitale a commencé en 2011, quelque chose comme ça. Et elle avait seulement les quatre principaux chaînes, la télévision publique avec deux chaînes, et après SIC et TVI, CNN. Et les députés ont trouvé en 2012 que la chaîne parlementaire devrait être de diffusion universelle à tous les Portugais. Alors, elle devrait être dans la télévision digitale. Et pour ça, on doit payer à l'entreprise qui fait la diffusion pour tout le pays, comme fait pour toutes les chaînes parlementaires, toutes les chaînes de télévision, c'est 600 000 euros. Les chaînes de télévision payent beaucoup plus que nous, alors qu'ils ont des recettes publicitaires. Et la chaîne parlementaire, et en termes légaux, nous ne sommes pas une chaîne de télévision. Nous n'avons pas attingir le statut commercial et que remplir toutes les conditions pour les chaînes de télévision. Alors, on a un prix spécial. Ce n'est pas si spécial que ça, parce que comme on a cette limitation de 3100 heures par année, si on va faire, casser ce limite, on paiera la même chose que les télévisions. Alors, ce n'est pas si bon que ça, mais c'est une décision politique. Et pour changer ce contrat-là, on a besoin d'une décision politique du plénaire une autre fois. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes nous critiquent parce qu'on ne transmet pas, par exemple, les débats entre les députés avant les élections législatives qui sont organisées par la chaîne de TV, mais on a cette limitation. Et si on va transmettre plus de 3100 heures, on doit payer beaucoup plus et on n'a pas cet argent-là dans le budget pour, disons, 2022-2023. Notre documentaire, un archive du Parlement ? Oui. Oui, on a. Pas dans la communication, mais on a une bibliothèque. Et un centre parlementaire d'archives, de recherche, oui. Sont de recherche, je crois que Marie Letan a été avec vous hier soir, et Teresa Braul, ce matin-là, elle travaille dans le centre de recherche. Mais elle fait seulement des recherches pour les députés, pour les groupes parlementaires. On a des archives et des bibliothèques, sont toutes des unités différentes. Et on a dans la chaîne parlementaire un archive digital et audiovisuel, si vous voulez. Non, on travaille ensemble avec l'archive parlementaire, mais on doit avoir une participation dans l'inscription des méta-informations des vidéos et des audios. C'est passionnant ce sujet-là. En ce qui concerne les transmissions de la chaîne parlementaire, c'est exactement comme vous le disiez. C'est un match sans commentaire. On dit souvent qu'on essaie d'être en parlement avec des murs de glace, de verre, transparente, si vous voulez. Alors, sans intervention de notre part, autre que soit de la réalisation de la séance, de la réunion. On n'a pas de commentaires. Même quand on fait, on a un jour férié, que c'est le 25 avril, que c'est le jour férié de la révolution de 1974, et on a une séance spéciale dans le plein air, et on a fait ça déjà deux fois, on fait toute l'émission, c'est-à-dire l'arrivée des invités, du président de la République et tout ça. Et on fait tout ça sans commentaire. On a essayé de faire un commentaire 2016-2017, mais les journalistes parlementaires n'ont pas le métier de le faire comme les journalistes de TV, qui sont habitués à commenter. Bon, ici arrive le président du tribunal constitutionnel, qui c'est cette personne-là, et qui arrive à... On n'a pas cette habitude, on n'a pas ce profil professionnel. Alors, on fait tout ça sans commentaire. La stratégie de communication avec le cabinet de communication est d'autrefois insiste et investe beaucoup plus dans la création de contenu spécifique pour des publics spécifiques aussi. Pour des journalistes, en les aidant à diffuser l'information parlementaire, pour des jeunes étudiants et pour des investigateurs. Les vidéos des séances, des réunions sont, comme vous disiez, eh bien, un match sans commentaire. Ça arrive bien. Ce sont 4 années et j'ai pas. Je dois vous dire ça. On fait beaucoup dans ce travail académique parfois de savoir. Qui sont les personnes avec lesquelles nous parlons et quelle est l'impression que cette personne a. Je dois vous dire que dans les enquêtes d'image publique, des institutions publiques, le Parlement est toujours le mieux classé et a amélioré dès 2018 jusqu'à 2022, en tant qu'on a une crise de confiance tremende avec les politiques et la politique en général. En Portugal, comme dans tous les autres pays, je crois. Mais cette stratégie de faire deux choses différentes. Une, de créer un contenu qui peut être diffusé en vidéo, en infographie. On a essayé et on a commencé à faire infographie en 2018 et on a fait beaucoup d'infographies très simples, très, très petites, si vous voulez, en minutes d'infographie, en expliquant ce qui est le budget, comment on approuve le budget, une loi. On fait une autre chose qui s'appelle la loi dans 1 minute. Et dans 59 secondes, on explique, d'une forme générale, le contenu d'une loi qu'on a approuvée. Et ça marche. Les personnes reçoivent bien et surtout les personnes les diffusent sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, oui. D'autres indicateurs, je ne les ai pas. J'ai ce que je vous ai montré. On a Google Analytics dans le site internet. Et alors, on voit ça. Mais on n'a plus rien de plus spécifique et professionnel. Je m'excuse. C'est bon. Autant de parlement du jeune qui a grandi énormément. On a commencé en 1995 avec 100 jeunes. Aujourd'hui, on a 1000 écoles et inscrites dans ce programme. On a 170 000 étudiants qui s'inscrivent, qui participent, pardon, dans les programmes en octobre et qui arrivent après 3 séances districtales régionales au Parlement en mai. On va avoir les séances nationales lundi et mardi prochain avec 140 jeunes de tout le pays, de l'Europe, hors Europe. Alors on a des écoles portugaises de tout le monde en participant sur cette initiative. Et les vidéos dans les réseaux sociaux, oui. Instagram surtout, le Facebook a un public plus vieux, mais Instagram c'est tréman. Et Twitter, comme je vous dis, Twitter c'est seulement pour information institutionnelle. Parce que tout le reste, bon, Twitter est un camp de bataille, de guerre. Alors on doit être...
Moi, je partage votre avis. Mon avis personnel, il ne faut pas que la chaîne déborde sur le terrain de l'analyse. Parce qu'en réalité, l'analyse et le débat sur un projet de loi peut-être mérite une attention particulière et une technicité que la chaîne parlementaire ne doit pas disposer, parce qu'en réalité, son rôle principal, c'est le service public. Donc, et ce service public doit se limiter uniquement à l'instruction. Bien sûr, il faut qu'il y ait un contenu instructif pour les citoyens, et doit se limiter uniquement aussi à l'aspect d'information, donc informer le public des travaux en commission et des travaux en plénière. Donc, et laissons cette dimension de débat et d'analyse aux autres chaînes, soit privées ou publiques, qui peuvent organiser ces réunions ou ces émissions. Parce qu'en réalité, si on veut avoir des émissions de débat de qualité, il faut avoir une dépense pour ça, donc avoir des vrais analystes, donc pas uniquement des parlementaires, mais des gens qui analysent, donc des gens externes que la chaîne doit payer aussi. Et ça, c'est, je pense, mérite une attention particulière de la part des chaînes privées et des chaînes publiques d'une manière générale. Et ce n'est pas le rôle, pour moi, de la chaîne parlementaire qui doit limiter son action uniquement dans l'information et l'instruction, d'une manière générale.
Deux choses de plus. La première, en ce qui concerne les débats et les analyses, on travaille d'une façon très proche avec les télévisions pour les donner les conditions pour qu'ils fassent ces débats dedans le Parlement. Alors, on les donne, quand c'est possible, des espaces, les salles des pas perdus, la salle noble, pour qu'ils fassent ces débats avec des invités, avec des députés. Et alors, on travaille aussi pour que l'information et l'image du Parlement passent ailleurs dans ce point de vue. Une autre chose qu'on fait, ce qui concerne la stratégie de communication, c'est d'analyser et ramasser toute l'information qu'on a dans le site Internet, qui est, je dois vous dire, notre site a des problèmes. Il y a beaucoup d'informations, il y a toute l'information. Alors, ce n'est pas facile pour un utilisateur de réussir à arriver à cette information, parce qu'il doit cliquer 2, 3, 4, 5 fois jusqu'il arrive à le morceau d'information qu'il veut, qu'il a besoin. Alors, quand on a des grands débats sur un projet de loi qui est très important, je vous ai parlé de l'euthanasie, c'est un exemple, on a fait ça, on ramasse toute l'information qu'on a dans le site, et on essaie de créer une autre micro-site avec cette information structurée et on va créer des documents nouveaux, c'est-à-dire une table comparative entre les initiatives en discussion et un petit vidéo de 2 minutes avec un journaliste qui explique très simplement ce qui va être en débat, sans prendre position en ce qui concerne les initiatives. C'est-à-dire, mercredi prochain, on va avoir ce débat-là, il y a 5 initiatives en discussion, elles veulent grossement faire ça. Vous pouvez regarder le débat à la chaîne parlementaire. Et avec ça, on va créer d'intérêt et on va donner des instruments pour ce que les personnes peuvent accompagner les débats et prendre l'information, mais toujours sans prendre un côté ou l'autre. C'est très important pour nous, du point de vue statutaire, de jamais démontrer quelque inclination vers une position ou l'autre. Ça serait la neutralité politique. C'est un devoir spécifique de tous les fonctionnaires de l'Assemblée, et je dirais que c'est l'ADN de tous les fonctionnaires du Parlement. Alors, en communication, on doit être très préoccupé avec ça.
La couleur politique, effectivement. La couleur politique qui dominante au Parlement puisse toucher la chaîne parlementaire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une influence d'un parti qui a gagné les élections, donc législatives, il ne faut pas qu'il domine la chaîne parlementaire. Il faut que la chaîne offre un service public neutre. Et c'est ça, j'ai parlé de l'analyse et du débat, il ne faut pas que la chaîne se retrouve parti pris avec un parti ou à une autre partie. Donc c'est ça.
Si j'avais 1000 microphones en fonctionnement qui sont en train d'enregistrer à la distance. Ils ne sont pas ici parce qu'il y a des enregistreurs dans la salle et ils les contrôlent à la distance. Oui, c'est ça. Commission permanente 14 dans cette législature. Ça change de législature pour autre. Pendant 3 législatures, elles ont été 12, mais ça dépend un petit peu des compétences du gouvernement. Alors, on a 14 maintenant. Oui.
Les groupes parlementaires ?
Groupes parlementaires, dans ce moment-là, 7, oui. Oui, 7, non, 8. 8 groupes parlementaires avec 2 députés uniques. Oui, c'est ça.
La création des commissions permanentes par la constitution du gouvernement ou
pas forcément
par le Parlement.
C'est le Parlement qui décide de créer les commissions. Il y a tendanciellement, c'est pas forcément comme ça, une tendance pour créer des commissions qui ont une relation avec les compétences du gouvernement, mais il y a des ministres. Les ministres doivent venir 4 fois par session à chaque commission, et il y a des ministres qui doivent venir à 3 commissions différentes.
Mm-hmm. Une commission peut tenir deux à
Oui. Environnement, habitation, oui, équipement social, oui, c'est ça.
Pratiquement, c'est vrai, je pense.
Oui, ouais, j'imagine.
Très bien.
Bon. Non, je remercie une autre fois. Et je m'excuse, mon pauvre français. Il va, comme vous avez vu, il va en descendant rapidement vers le portugais.